dans le débat, parce qu'effectivement, le dialogue entre Foucault et Lacan est un des fils hein, que suit ce travail, et qui n'apparaît peut-être pas clairement dans le titre, mais peut-être en filigrane dans le sous-titre, entre plaisir et puissance, qui renvoie justement d'un côté à ce que Foucault apprenait de la fin de sa vie, c'est-à-dire l'abandon de la violence au désir pour adopter plutôt la ligne du plaisir, la recherche du plaisir, et de l'autre côté, le fait que Lacan a tenu ferme sur la question de la jouissance qui nous tient, qui nous tenaille, en quelque sorte, à travers les symptômes et ne nous laisse pas un plaisir paisible. Alors, si ce débat est possible, il a été d'ailleurs mené en parallèle à un certain moment, puisque Foucault et Lacan ont travaillé à une époque commune, dans les années 70 par exemple. Cela est possible sur un terrain qui est le terrain, comme a dit Charlotte Delfray tout à l'heure, de la maison Freud. Décidément, ça va être le leitmotiv de la soirée.
Notre monopole.
Oui, notre monopole. C'est-à-dire que le point de départ de ce livre, finalement, est une idée qui vient de la lecture de Freud, mais aussi une idée qui, à laquelle la pratique de l'analyse renvoie à chaque pas. Et qui est celle de l'étrangeté du sexuel, ce que Freud appelait d'un terme un peu difficile à traduire, l'entfremdung. On traduit l'entfremdung, très bien traduit dans la nouvelle traduction des œuvres complètes, par étrangement, ce qui est pas très très difficile puisque c'est un adverbe. Mais de quoi s'agit-il? En fait, tous les cas qui ont été analysés par Freud et qui font maintenant partie un peu de notre culture commune, Dora, le Petit Hans, le Mora, ils témoignent tous de la surprise qui s'empare à un certain moment du sujet devant l'irruption du sexuel, l'irruption du désir. Ça vient vraiment comme quelque chose de surprenant. Alors, il faut dire que ce n'est pas une question nouvelle que Freud découvre, puisque les gens de l'Antiquité, pour se rappeler les Grecs, Sappho et la poétesse ont donné une image politique comme écrivant, parmi les fragments qu'on a trouvé, que le désir fond sur le sujet comme le vent s'abat sur le chêne. C'est vraiment une belle image de cette façon de secouer. On comprend donc que la rencontre avec le désir ait pu être assimilée parfois à un traumatisme, et il a même parlé de corps étranger pour décrire ce statut du désir dans la vie psychique comme une note inattendue, chargée d'un grand cadeau, de plaintes, de symptômes, d'angoisse. C'est donc là le véritable étranger, me semble-t-il, le véritable. S'il y a un racisme fondamental, c'est vis-à-vis du désir dont l'abus psychique, son propre désir. Or, si le sujet se preuve son désir sur ce mode-là, qui est le mode de la vérité, la question c'est comment apprivoiser l'étrangeté, comment faire une place à cette vérité-là, comment en somme transformer l'errance en voyage. Et l'enjeu, pour se rappeler de notre titre, l'enjeu en jeu. Et c'est ce parcours-là qui est aussi celui, me semble-t-il, d'une psychanalyse. Transformer l'enjeu en un espace de jeu. Alors j'ai essayé d'approcher ce caractère énigmatique du désir suivant un itinéraire qui se déroule entre ces deux pôles, plaisir et jouissance, et qui est de l'irruption du sexuel au mirage des perversions, comme disait tout à l'heure Jean-Richard Frenin, expose différentes manières de faire face aux désirs qui sont abordés. Là encore, la question est ancienne. Décidément, on ne sort pas si facilement de l'Antiquité. Aristote, dans son Politique, avait repéré une fille lexicale, que l'on trouve sur les latins, en grec, au niveau du rapport de l'homme et de la femme. C'est un peu l'antécédent du n'y a pas de rapport sexuel de la femme. Vous pouvez évoquer ce endroit. Et c'est ce livre lexical qui a fait au sein de la cité antique a pu représenter quelque chose de l'altérité. C'est donc un des angles sur lesquels on peut approcher le mystère du désir. Que ce soit par rapport à l'exercice du pouvoir, vous savez qu'Aristophane a laissé des parodies hilarantes et sympathiques, néanmoins, sur l'utopie féministe, dans l'Assemblée des femmes, par exemple.
Ah oui, donc on a fait quelques extraits déjà.
Donc on passe, c'est ça, on passe de la tragédie à la comédie. Que ce soit dans les formes de religiosité qui s'écartent de la religion officielle, comme par exemple les orgies des ménades, dans le culte de Dionysos, ou les mystères de Déméter, qui étaient secrets et fermés aux hommes, réservés aux femmes. Dans tous ces lieux, le féminin a été le lieu de l'intime, à l'écart de l'espace public de la Goma. Et il est resté tel, pour Freud, à travers une question que de la femme, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de son œuvre, ou encore par une expression, c'est le continent noir qui lui a réservé, et qui, que Lacan a traduit par l'autre sexe, avec un grand A, encore.
Voilà l'autre.
L'autre sexe. Au sens justement où il est recouvert de mystère et d'opacité. Or, il y a quand même, dans ce mystère du désir, il y a une partie qui coin, qui ressemble à un jeu, qui est quelque chose comme ça d'accessible. Ce sont les préliminaires, les préludes à l'amour, pour traduire le mot allemand que l'emploi Freud, qui est Vorspiel.
Le jeu devant.
Le jeu devant, les préludes.
Préludes.
Alors que le plaisir s'accompagne d'une baisse de tension, les préliminaires, le plaisir préliminaire, réclame lui un toujours plus. C'est un plaisir qui demande un empressement du plaisir. Il va s'intensifiant, suivant donc un principe que Freud a énoncé, et qui serait à l'œuvre, selon lui, dans d'autres formes de jeu que les jeux amoureux. Par exemple, les jeux d'enfants, les jeux effectués sur la scène du théâtre, ou encore les jeux qui se manifestent dans la création poétique,